Il est 7h50, Léa Salamé, votre invité ce matin est le président du Collège National des Gynécologues et Obstétriciens Français.
Bonjour Israël Nizan.
Bonjour Léa Salamé.
Merci d'être avec nous sur France Inter. Mauvaise météo pour les femmes, je ne pensais pas vivre un tel moment de régression, dites-vous. Que se passe-t-il? De quoi parlez-vous? Pourquoi êtes-vous en colère?
Ce qui se passe, c'est que la contraception orale est présentée comme des choses qui tuent. Le stérilet, c'est pareil. La contraception définitive, c'est pareil. Que reste-t-il comme choix aux femmes aujourd'hui pour se protéger contre des grossesses non voulues? L'IVG. On a déremboursé il y a 5 ans les contraceptions les plus chères. Si elles étaient dangereuses, il fallait les retirer du marché et pas les dérembourser. Et donc il s'agit d'une économie sur le dos des femmes. Mais les exemples se multiplient aujourd'hui d'économies faites sur le dos des femmes, ne serait-ce que dans le fonctionnement des maternités de France.
Alors vous parlez des économies faites sur le dos des femmes. Il y a quand même un fait au-delà de ces économies-là, c'est que la pilule, symbole de la libération sexuelle des femmes il y a 50 ans, eh bien depuis 2010, il y a un mouvement de défiance, de désaffection vis-à-vis de la pilule. 1,5 million de femmes, 10% des femmes ont décidé d'arrêter la pilule ces 7 dernières années, c'est énorme.
Il faut dire que nous avions une situation, une répartition, il n'y a pas de répartition optimale des contraceptions. Je pense que la meilleure contraception pour une femme, c'est celle qu'elle-même choisit. Mais on avait en France une espèce d'addiction ou de propension à utiliser plutôt la contraception orale. Et la contraception orale, comme tout médicament, a ses effets adverses. On peut dire d'un médicament, quand il n'a pas d'effet adverse, qu'il n'est pas efficace. La pilule est remarquablement efficace. Et puis quand vous utilisez à des millions d'exemplaires un médicament, vous voyez des complications qui étaient rares, extrêmement rares. Pour vous donner un exemple, la thrombose veineuse, c'est-à-dire la phlébite et l'embolie pulmonaire, sont extrêmement rares dans la population générale. C'est 2 pour 10 000 femmes.
Alors comment vous expliquez que cette musique rentre, que l'idée des effets secondaires de la pilule, alors qu'il y a 10 ans ou 20 ans, on n'en parlait pas, les migraines, les problèmes vasculaires, les prises de poids, maintenant on en parle et de plus en plus de femmes ont peur de prendre la pilule, tout simplement.
On a passé par une période où on pouvait penser qu'on allait donner les pilules par-dessus le comptoir tellement on pensait qu'elles avaient une grande innocuité. Ce n'est pas vrai. La pilule est un médicament, il y a des contre-indications et il faut y avoir, avant qu'une prescription de pilule, il faut qu'il y ait une vraie consultation médicale détaillée.
Il y a cette désaffection vis-à-vis de la pilule et elle fait écho à une autre défiance, celle vis-à-vis des vaccins. Alors que 11 vaccins vont devenir obligatoires au 1er janvier prochain, on entend de plus en plus de parents dire « non, je ne veux pas faire vacciner mes enfants ». Vous leur répondez quoi ?
Je leur réponds qu'ils vivent dans un pays de cocagne, où on ne voit plus les maladies, et où on peut dire, je vois pas les maladies, je vois pas pourquoi je mettrais à mon enfant un vaccin dont on dit faussement qu'ils ont des effets négatifs. Donc il y a une désinformation sur les vaccins, et surtout, comme le dit l'Académie de médecine, si vous ne voulez pas les vaccins, essayez donc les maladies.
Il faut sanctionner les parents réfractaires.
Je ne pense pas qu'il faille sanctionner, je pense qu'il faut convaincre. Il faut véritablement continuer d'expliquer que certains mauvais prophètes qui sont là en train de dire des choses fausses sur les vaccins n'ont pas le droit d'informer et de désinformer la population sans que ça soit un délit. C'est plutôt la sanction des gens qui disent des choses non conformes à la science médicale et on a des manières d'administrer la preuve en médecine. C'est plutôt ces gens-là que je sanctionnerai.
Et pourtant, vous dites qu'il faut convaincre, mais de plus en plus de gens, j'ai l'impression, sont convaincus du contraire de ce que vous dites. C'est-à-dire que Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, était à votre micro il y a quelques semaines. Elle essayait de convaincre que non, l'aluminium présent dans les vaccins, c'est pas grave, c'est pas dangereux. Et pourtant, ça progresse.
On a eu, sur les vaccins, plusieurs épisodes malheureux. Ce qui est très malheureux de mon point de vue, c'est que la France qui a inventé les vaccins est celle qui s'en sert le moins. Il y a un domaine qui n'est pas concerné par les 11 vaccins que propose la ministre, qui est le vaccin contre le cancer du col et contre le cancer du foie. On est un pays où on a 14% de femmes qui sont vaccinées contre le cancer du col, là où nos voisins anglais sont à 88%. Les Anglais voient le cancer du col disparaître, les Australiens encore plus, et nous le voyons augmenter. C'est une catastrophe. Sur le cancer du foie, il en va de même. Nous voyons le cancer du foie augmenter, là où les pays voisins le voient disparaître. Donc, il suffit d'ailleurs qu'il y ait une épidémie de méningocoque sur un campus universitaire pour que les gens se jettent dessus. Donc, c'est vrai qu'on est dans un pays de cocagne, où il n'y a plus de maladie et où on n'éprouve plus le besoin de se protéger.
Autre sujet de colère pour vous, la sortie cette semaine du livre noir de la gynécologie, un livre qui recense les violences faites aux femmes enceintes, épisiotomie, remarques déplacées, gestes brusques, pratiques d'un autre temps. Vous dites, j'en ai marre de ce bashing généralisé contre les gynécos.
Oui, la profession de gynécologie obstétrique est une profession d'énorme pénibilité et 97% des gynécologues obstétriciens font un travail extraordinaire de bientraitance, de gentillesse, de dévouement et de qualité. On est un des pays qui a le meilleur résultat en termes de mortalité maternelle, 8 pour 100 000 en termes de mortalité néonatale. Donc, quand je sors de ma garde, où j'ai bataillé pendant toute une nuit pour sauver une vie, et que j'allume la radio, et que j'entends que les gynécologues obstétriciens se réveillent le matin pour aller violenter les femmes, j'ai l'impression de subir une punition collective.
C'est un peu caricatural, là. Est-ce que c'est pas bien que les femmes libèrent la parole? C'était un sujet où elles étaient forcément en situation de faiblesse. Quand on est enceinte, on écoute ce que dit le médecin, on le suit. Et pendant longtemps, elle ne disait rien.
C'est très bien que les femmes libèrent leur parole. Et je vais vous dire, nous allons en profiter pour améliorer des maternités qui roulent sur trois roues. Si vous avez une voiture qui a que trois roues, vous la laissez au garage. Vous attendez d'avoir de l'argent pour payer la quatrième roue. Eh bien, nous demandons qu'on laisse les maternités qui roulent sur trois roues au garage, car des personnels maltraités deviennent maltraitants. Quand un gynécologue a fait 5 césariennes dans sa nuit et qu'il a brancardé lui-même les patientes, il ne faut pas lui demander d'être gentil au petit matin.
C'est le côté industriel de la chose qui vous énerve. Enfin, et parce qu'il y a beaucoup de sujets à discuter avec vous ce matin, vous intervenez dans les collèges et les lycées depuis 20 ans pour informer les jeunes sur la contraception, sur la sexualité. Il y a une chose qui vous préoccupe particulièrement, Israël Nizan, c'est l'accès libre et facile des ados à la pornographie. Il y a ce chiffre que vous donnez dans une interview du Point passionnante qui date d'il y a un an, un peu plus. Dès 11 ans, 95% des enfants ont déjà été exposés à des images pornographiques. 95% des enfants, vous dites, c'est dramatique.
C'est que les gens qui ne savent pas les conséquences, qui imaginent que c'est cool la pornographie. Oui, c'est cool pour les adultes. Aucun parent n'a envie que son enfant de 9-10 ans devienne addict de ces images et en consomme 3 heures par jour sans oser le dire à ses parents.
3 heures par jour ?
Addiction à la pornographie chez les 9-10 ans et on sait et on voit les conséquences. On me demande de venir une année plus tôt dans les collèges de Strasbourg, parce qu'il y a des fellations collectives dans les toilettes. Mais où ils ont appris ça, nos enfants? Qu'est-ce qu'on leur apprend? Et moi je dis, le citoyen Nizan demande qu'on respecte dans notre pays la protection des mineurs et que on ne demande pas...
Vous parlez du manque de courage des politiques à affronter l'industrie lucrative du porno.
Les politiques ne disent c'est pas possible. Et moi je dis, c'est possible, il y a des pays qui l'ont fait.
Comment?
En taxant, en demandant le numéro de carte bleue dès la première image délivrée sur Internet, comme dans un hôtel.
Numéro de carte bleue. Merci beaucoup, professeur Nizan, d'avoir été avec nous ce matin sur France Inter.